Je vous invite donc à prendre vos Bibles ou votre téléphone comme vous voulez pour prendre le texte suivant. Luc 21, versets 34 à 36. Luc 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès ou l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen.
Bonjour à tous. Je vous souhaite un agréable sabbat. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale, puisque c'est une journée qui est consacrée à la santé. Et nous allons à la fois ce matin introduire ce thème, donc ce thème de la santé, mais également cet après-midi, donc à 15h30. Vous avez tous entendu cette expression « être le pire cauchemar de quelqu'un ». Et ne vous êtes-vous jamais demandé si vous pouviez, eh bien, devenir le pire cauchemar de Satan ? Quand on regarde en arrière l'histoire de l'Église, eh bien, nous voyons que depuis 2000 ans entre autres, mais depuis 6000 ans que nous sommes sur cette terre, eh bien, Satan utilise tous les moyens possibles pour détruire le peuple de Dieu. Et j'aimerais, avant de démarrer cette méditation, eh bien, demander à Dieu sa présence, en particulier ce matin. Donc, je vous demanderai juste d'incliner la tête pour une courte prière. Tendre Père, en cet instant, je te demande, Père Céleste, de prendre possession de ce lieu par tes saints anges, de permettre de oindre mes lèvres, que je puisse complètement disparaître, Père éternel, et que toi seul puisse être glorifié, Père éternel. Puisses-tu, c'est toi qui détient la clé de nos cœurs. Puisses-tu ouvrir nos cœurs, Père éternel, à l'influence de ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le 17 septembre 1862. Nous sommes sur un champ de bataille qui oppose les nordistes et les sudistes. C'est la fameuse bataille d'Antietam. L'armée confédérée sudiste, forte de 40 000 hommes, eh bien, dispose d'une artillerie relativement ancienne qui est commandée par le fameux général Lee. Et cette armée envahit le Maryland en deux colonnes. La première donc sous ses ordres et la seconde sous le commandement de Jackson. Cette seconde colonne, eh bien, va attaquer et va prendre Harper's Ferry et sa garnison qui, bien que composée de 10 000 hommes, eh bien, va tomber rapidement entre les mains des sudistes. Et Jackson va alors placer une division pour rassembler les prisonniers et faire marcher le reste pour rejoindre son chef. Et là, eh bien, un soldat nordiste va découvrir, en plein milieu d'un champ, par hasard, eh bien, les plans de bataille du général Lee dans une boîte à cigares. Et cela va apprendre, eh bien, à l'armée nordiste, eh bien, que les sudistes sont divisés en deux colonnes, ce qui, bien sûr, affaiblissait cette armée sudiste. Et McClelland, donc général nordiste, ne prend aucune initiative pendant les 18 heures qui suivent, ce qui aurait pu lui laisser l'avantage par rapport aux sudistes. Se pourrait-il que nous ayons entre les mains les plans de bataille qui nous décrivent, eh bien, de manière détaillée, de quelle façon sortir de ce bourbier dans lequel le monde est englué? Se pourrait-il que nous ayons ces plans de bataille, mais que nous ne les utilisions pas et que nous n'y fassions pas attention? Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, il se livre une guerre sans pitié, une guerre physique, mais également, et on l'oublie peut-être un peu trop souvent, une guerre spirituelle. Et nous sommes au centre de cette guerre spirituel. C'est une bataille, une lutte à mort, et il est donc essentiel que nous puissions prendre conscience de l'ampleur de ce combat spirituel afin de ne pas être pris par surprise, mais surtout de disposer des armes adéquates face à ce conflit. Je ne sais pas si le diaporama peut être mis. Voilà le titre de cette prédication, donc le pire cauchemar de Satan. Et la première citation donc, se trouve dans la Revue Générale du 22 mars 1887. Et voici ce que déclare Ellen White. « Il n'y a rien que Satan ne craigne plus que de voir le peuple de Dieu préparer le chemin en faisant disparaître tout obstacle afin que le Seigneur puisse déverser son esprit sur une église qui se languit. Lorsque le chemin est préparé pour l'esprit de Dieu, les bénédictions arrivent. » Ainsi donc, si nous voulons devenir le pire cauchemar de Satan, il nous faut recevoir le Saint-Esprit. Si nous voulons devenir le pire cauchemar de Satan dans notre vie, dans notre église, dans notre entourage, il nous faut cette effusion du Saint-Esprit. Et malheureusement, eh bien le problème c'est que très souvent nous ne sommes pas pris au sérieux par le diable quand il voit de quelle manière nous pouvons agir dans notre vie. Et si nous souhaitons participer à cette moisson d'âme, c'est une promesse par rapport à cette effusion du Saint-Esprit, que Dieu est en train de préparer, eh bien, il nous faut nous préparer de manière spéciale pour cela. Car il n'y a rien que Satan ne craigne plus que cela. Et il est vrai que Satan n'a pas peur des pasteurs consacrés. Satan n'a pas peur des prédicateurs talentueux, des anciens expérimentés, des professeurs diplômés, des laïcs formés, à moins qu'ils ne soient pleinement remplis du Saint-Esprit. Et il est intéressant de noter que lorsque Paul s'adresse à Éphèse, Paul leur pose la question dans Actes, chapitre 19 et au verset 2, que déclare-t-il ? « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et que répond-il ? « Mais nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » Comment est-ce que nous entrevoyons le rôle du Saint-Esprit dans notre vie ? Est-ce que c'est quelque chose qui est optionnel ? Est-ce que c'est une force, une énergie ou une personne vivante qui est capable d'être à nos côtés chaque jour et nous devons chaque jour implorer sa présence dans notre vie ? Et si on regarde le rôle du Saint-Esprit, eh bien, nous trouvons sa présence 88 fois dans l'Ancien Testament. 262 fois dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est présent tout au long de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Et en fait, on pourrait même rebaptiser le livre des Actes par le livre des Actes du Saint-Esprit. Et quand nous lisons le livre des Actes, eh bien nous voyons que le Saint-Esprit est là pour consoler, pour diriger, pour corriger, pour reprendre. Et nous voyons son action tout au long, eh bien, du livre des Actes. Le Saint-Esprit, eh bien, c'est le représentant du Christ sur terre, mais eh bien, dépouillé de la nature humaine que Christ a pris. Et dans « Vous recevrez une puissance », le 2 janvier, Ellen White déclare « L'Église considère la promesse du don de l'Esprit de Dieu comme peu d'importance. On n'en souligne pas la valeur. » Le résultat est celui auquel on pourrait s'attendre, la sécheresse spirituelle, l'obscurité spirituelle, le déclin spirituel et la mort. Et lors de la préparation pour les 10 jours de prière, eh bien j'ai relevé cette citation que vous allez avoir derrière vous. Les membres du peuple de Dieu se sont habitués à penser qu'ils doivent se confier en leurs propres efforts et qu'il y a peu d'aide à recevoir du ciel. Et le résultat est qu'ils ont peu de lumière à communiquer aux autres âmes qui périssent dans l'erreur et dans les ténèbres. L'Église s'est longtemps contentée de recevoir une petite mesure des bénédictions divines. La puissance de Dieu a tant d'être réclamé et reçu. Ceux qui sèment les saintes semences de la vérité récolteront une moisson de joie. Est-ce que nous prenons conscience que le Saint-Esprit n'attend qu'une chose, c'est que nous puissions réclamer sa présence comme jamais auparavant dans notre vie? Et lorsque nous lisons Jean chapitre 16 et le verset 13, nous lisons « Mais lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, pas dans une petite partie de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Mais il dira tout ce qu'il a entendu et il nous annoncera les choses à venir. Et nous pouvons aller à l'église le vrai jour du repos, le bon jour de repos, adorer Dieu le Père, Dieu le Fils, mais passer complètement à côté du Saint-Esprit. Et lorsque nous voyons les disciples d'Emmaüs cheminant avec Christ, que dire-t-il? Mais eh bien, ne sentions-nous pas en nous un feu dévorant? Est-ce que nous attendons suffisamment la présence du Saint-Esprit lorsque nous faisons notre méditation matinale? Ou est-ce que dès que nous avons lu un passage de la Bible, fait une petite prière, il est temps de partir et nous n'avons pas attendu que le Saint-Esprit puisse nous communiquer ce qu'il a à nous dire? Et cela nécessite du temps d'arriver à une pleine communion avec le Saint-Esprit. Alors c'est vrai que certaines églises ont mis tellement l'emphase sur le Saint-Esprit, on en arrive à malheureusement des extrêmes et un piège que Satan peut malheureusement aussi utiliser. Alors quel est le lien avec la santé? Eh bien, le lien de la santé est un domaine très important, mais sans cette dimension du Saint-Esprit dans nos vies, nous avons la faculté, la tendance de tomber dans le légalisme, faire pour faire. Et c'est pour cela qu'il est important d'intégrer cette dimension du Saint-Esprit, parce que par nous-mêmes, nous ne sommes incapables de faire quoi que ce soit. Donc seul le Saint-Esprit est capable de nous donner la force et de nous communiquer l'énergie pour pouvoir aller de l'avant. Comment Dieu communique-t-il avec son peuple? Eh bien, dans Tempérance, donc, prochaine citation, Tempérance, pages 13 et 14, nous pouvons lire, et ça a été écrit il y a plus de 150 ans, ces énergies nerveuses qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Tout ce qui trouble la circulation des courants électriques du système nerveux diminue l'intensité des forces vives et aboutit à émousser la sensibilité de l'esprit. Elle dit que, Dieu communique avec l'être humain par notre cerveau. Et citation suivante, pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 60, elle déclare, en tant qu'organe de l'esprit, le cerveau régit le corps tout entier. Pour que toutes les autres parties de l'organisme fonctionnent normalement, le cerveau doit être en bon état. Et pour cela, le sang doit être pur. Si la pureté du sang est assurée grâce à de bonnes habitudes en matière alimentaire et de boissons, le cerveau sera convenablement nourri. Alors, lorsque deux nations sont en guerre, ou lorsque tout du moins quelqu'un essaie de faire un coup d'État dans un pays, eh bien quel est le centre névralgique que l'on essaye de prendre en premier? Eh bien c'est le centre de communication, les médias. Une fois qu'on a contrôlé la communication, on contrôle une partie du pays. Et comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes au centre d'une guerre. Eh bien, l'un des éléments centraux que Satan va essayer de détourner à son profit, c'est notre centre de communication. Et notre centre de communication, c'est notre cerveau, parce que c'est par notre cerveau que Dieu essaye de communiquer avec nous. Alors, les scientifiques ont découvert que nous avions deux cerveaux extraordinaires. Le premier, qui est ici, Je ne vous fais pas de dessin. Et le second, qui se trouve dans les intestins. Et ce qui est très intéressant, lorsqu'on regarde un petit peu comment nous sommes composés, nous avons donc un cerveau ici qui est composé de 85 milliards de neurones, et le second est composé d'un demi-milliard de neurones, 500 millions précisément, environ. Mais ce qui est très intéressant, lorsqu'on regarde un petit peu plus près, nous avons dans ce cerveau, eh bien, nous avons 5% pardon, de la sérotonine et 95% restant se trouve dans le deuxième cerveau. La sérotonine va gérer toutes nos émotions, le stress et autres. Donc, avant d'être géré par le premier cerveau, c'est géré par le second cerveau. Et notre deuxième cerveau est relié au premier par ce qu'on appelle le nerf vagal. C'est un lien direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc, ce que nous faisons entrer par le tube digestif va impacter notre deuxième cerveau et ensuite va impacter directement le premier. Je ne sais pas si vous voyez la répercussion de ce fonctionnement-là. On va passer à la deuxième. Et notre premier cerveau, suivante, voilà, donc notre premier cerveau, le centre, le cœur névralgique de ce cerveau, c'est le lobe frontal. Hein, le lobe frontal se trouve devant. Et j'ai trouvé un petit laïus intéressant dans, dans une revue québécoise de philosophie. Donc, les lobes frontaux sont une des régions les moins connues du cerveau. Cette région a été associée aux fonctions les plus nobles comme l'intention et la conscience. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Voilà un petit peu ce qui régit le lobe frontal, donc notre intention, la conscience. Donc si notre lobe frontal est attaqué, je ne sais pas si vous voyez la répercussion que cela a. Alors, on a compris cela particulièrement avec une expérience, et depuis il y a eu beaucoup de recherches effectuées, mais il y a eu en 1848, un récit intéressant donc, qui concerne, certains en ont peut-être entendu parler, Phineas Gage. Phineas Gage eh bien, était âgé de 25 ans et le 13 septembre 1848, eh bien, il a eu un accident tragique. C'était un agent de maîtrise et il s'occupait dans la construction des chemins de fer, il s'occupait de dynamiter les montagnes pour pouvoir faire passer bien sûr le chemin de fer, mais donc il s'occupait de perforer la roche, de remplir les trous de poudre et ensuite de recouvrir ou d'argile ou de sable et puis de faire exploser à chaque fois les pans de montagne, ce qui permettait au chemin de fer d'avancer. Et puis malheureusement, un jour, eh bien, donc Phineas perce le trou, remplit de la poudre ce trou et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais quelqu'un a oublié de mettre du sable par-dessus et en voulant bourrer le trou avec sa baramine, donc qui est une baramine assez fine, eh bien, ça a occasionné une explosion. La baramine lui a traversé par le dessous, tout le cerveau est ressorti 20 mètres plus loin. Donc vous imaginez la puissance. Et eh bien, cela n'a occasionné aucune perte de mémoire. Il a retrouvé ses facultés. Sauf une qu'il a perdue définitivement. Avant cet événement, Phineas était quelqu'un de très religieux. Il allait à l'église, quelqu'un qui entourait sa famille, quelqu'un d'aimant, qui est connu pour cela. Et après cet événement, il a perdu la faculté de son lobe frontal, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est devenu irreligieux, blasphémateur, qui n'allait plus à l'église, qui injuriait sa famille, etc. etc. Pourquoi ? Son lobe frontal avait été atteint directement par cela. Et aujourd'hui, nous connaissons les éléments qui viennent perturber le fonctionnement de notre lobe frontal. Alors j'en ai pris quelques-uns. Alors vous avez par exemple la caféine. La caféine, ce sont les expériences qui sont faites, va faire chuter de 25% la capacité de notre lobe frontal. Je ne sais pas si vous imaginez, vous faites baisser d'un quart la capacité de votre lobe frontal. Alors la caféine, on la trouve bien sûr dans le café, mais on la trouve dans le Coca-Cola. Dans le café, vous avez 100 à 150 mg de caféine, et dans le Coca-Cola, vous avez quand même 40 mg. Et bien sûr, là on peut prendre, c'est pas une tasse de Coca que des jeunes vont prendre, mais c'est bien plus. Vous imaginez donc l'action de la caféine sur eh bien, notre cerveau directement. On va passer à la suivante. Donc voilà, ça c'est la teneur en caféine, pas uniquement Vous voyez, dans Red Bull, Pepsi, Coca, etc., etc., dans toutes les boissons, le Nesty, le Icy. Et c'est vrai que quand vous rajoutez tout cela à longueur de journée, ça fait des doses de caféine qui sont énormes. Donc aujourd'hui, je dirais, essayez d'être vraiment hyper concentré et vouloir, et en tout cas, je dirais, avoir la force de tous les jours de lire la Bible, etc. Lorsqu'on est rempli de caféine, à un moment donné, c'est vrai que notre capacité va diminuer. On va prendre la slide suivante. Alors voilà, ça, ce sont les effets de la caféine. Donc vous voyez qu'à tous les niveaux, au niveau des yeux, de la bouche, du cœur, de la respiration, des intestins, la sphère gastrique, comme c'est hyper acide, eh bien on va peu à peu acidifier le terrain, etc., etc. Si vous voulez, cet après-midi, on va rentrer plus dans le détail, pas sur le café, hein, mais sur un plan plus large. On va pas se restreindre au café. On va prendre la slide suivante. Alors voilà, ça c'est le café, mais le sucre est également un élément qui va aussi abaisser eh bien, notre fonctionnement cérébral et notamment le lobe frontal. Ici, vous avez le nombre de sucres au niveau des boissons, mais pas uniquement tout ce qui est barres, chocolatées et autres. Donc vous voyez que dans une canette de coca, 2, 4, 6, 8, 10, 10 sucres dans une canette. Donc dans une boisson de litre, vous voyez le nombre de sucres. Donc tout ça cumulé sur une journée, eh bien, à un moment donné, notre capacité de réflexion diminue. Vous rajoutez café, sucre, plus tout le reste. Alors surtout pour les jeunes, vous rajoutez café, sucre, plus musique rythmée. Là, votre lobe frontal, il est pas très élevé. Mais voilà, tout ça, c'est aussi important de prendre en compte. Voilà. Donc nous ne sommes peut-être pas forcément addicts à l'héroïne ou au crack, mais est-ce que nous sommes accros à des substances qui peuvent perturber notre lobe frontal? Alors sans parler des dégâts qui sont causés au niveau du deuxième cerveau, parce que tout ça va acidifier complètement notre corps, et aujourd'hui on fonctionne avec un pH, et si notre pH est en dessous d'une certaine norme, la norme à peu près moyenne est 7,15, eh bien on va amener tout un tas de pathologies, des cancers, etc. Tout le système inflammatoire va être perturbé. Donc les gens qui ont des problèmes d'arthrose, des problèmes inflammatoires, c'est principalement un système de pH. Notre pH est très acide, donc il faut réalcaliniser tout le terrain. Tout ça, si vous voulez, on le verra cet après-midi. Quelles sont les solutions pour remettre tout ça à niveau? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Ellen White déclaré il y a longtemps, on n'avait pas encore pris connaissance de tout cela. Dans Conseils sur la nutrition et les aliments, page 133, les organes digestifs ont un rôle important à jouer dans le bien-être de la vie. Dieu nous a donné une intelligence qui doit nous permettre de choisir notre nourriture. En tant qu'hommes et femmes doués de bon sens, ne voulons-nous pas chercher à discerner si les aliments que nous consommons sont compatibles entre eux ou s'ils nous seront néfastes? Les gens qui souffrent d'acidité dans l'estomac montrent souvent de l'amertume dans leur disposition. Tout semble aller mal et ils deviennent facilement grincheux, irritables. Si nous voulons jouir de la paix entre nous, nous devons nous appliquer plus que nous le faisons à apaiser notre estomac. Et oui, notre cerveau est là, le deuxième. Et dans Counsel on Health, page 575, elle déclarait, citation suivante, si les adventistes mettaient en pratique ce qu'ils prétendent croire, s'ils étaient sincères dans leur application de la réforme sanitaire, ils seraient certainement un spectacle pour le monde, les anges et les hommes. Ils montreraient un plus grand zèle pour le salut de ceux qui demeurent dans l'ignorance de la vérité. Et nous verrons de quelle manière cet après-midi, eh bien, le style de vie adventiste a impacté le monde. Nous sommes la population qui est le plus étudiée aujourd'hui au niveau mondial par rapport à eh bien, ces spécificités que nous avons. Et le sabbat a un rôle primordial également par rapport à cela. Parce que c'est un sanctuaire dans le temps. Comment éviter le diabète, cholestérol, maladie cardiaque, cancer du côlon, prostate, sein, etc., etc. Et la Bible regorge, etc., etc. Et la Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont pris position, qui ont compris l'importance, eh bien, de changer d'alimentation. Dieu n'a-t-il pas, d'ailleurs, lorsqu'il a permis à Israël de quitter l'Égypte, Dieu n'a-t-il pas, d'ailleurs, la première chose qu'il fait, c'est changer d'alimentation au peuple d'Israël. L'exemple de Daniel est là également pour nous rappeler l'importance d'une alimentation pour faire les bons choix. L'exemple de Jean-Baptiste qui mangeait du miel et, alors il y a des fois des traductions qui parlent de sauterelle, mais la traduction originale parle de caroube ou d'une espèce, on est uniquement sur des végétaux. Anne la prophétesse également, et aussi étrange que cela puisse paraître, eh bien, nous avons lu dans Luc 21, les versets 34 à 36, et Jésus rappelle, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Donc Jésus se projette à la fin des temps et dit, voilà, par les excès du manger et du boire. Donc Jésus se projette à la fin des temps et dit, voilà, prenez garde également à ce qui va rentrer dans votre corps, parce que cela va aussi conditionner la manière dont nous allons nous préparer. La réforme sanitaire n'a jamais été une question de salut. La réforme sanitaire a été là pour nous aider à comprendre de quelle manière Dieu veut être encore plus proche de son peuple. Que Dieu veut communiquer avec son peuple d'une manière différente. Et pour cela, eh bien, nous devons permettre à notre corps et à notre esprit de pouvoir rentrer en pleine communion avec Dieu, de permettre eh bien, d'entendre la voix du Saint-Esprit qui nous conduise, qui nous encourage également. Alors on n'est pas sauvé par le tofu, hein, ça c'est certain, mais par la justice du Christ, par le sang versé à la croix. Et comme le déclare 1 Corinthiens 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. » Est-ce qu'on prend conscience qu'on a été racheté à un prix extraordinaire ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous ne nous appartenons pas. Comment est-ce que nous allons obtenir la victoire ? Humainement ? Eh bien, humainement, c'est impossible. Mais nous avons tellement de promesses dans la parole de Dieu. Paul, dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, déclare « Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout. » Pourquoi ? Eh bien, parce que Christ est passé par là. Christ est passé par nos moments d'angoisse, par nos moments de lutte, de souffrance, et il sait mieux que quiconque ce que nous pouvons vivre tous individuellement. Et c'est la puissance du message que Dieu a donné à son Église. C'est la puissance du message du troisième ange, le message de la justification par la foi. Et le bras droit du troisième ange, eh bien c'est ce message de la santé qui est intimement lié à la justification par la foi. Et dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, nous avons particulièrement besoin de pouvoir gérer le stress. Parce que précisément à la fin des temps, de quoi nous parle-t-on ? Eh bien, on nous parle de l'angoisse des nations. Et face à cela, eh bien, nous avons besoin de pouvoir traverser ces événements sans que le stress puisse nous impacter. En toute sérénité. Et Dieu est le seul qui soit capable, malgré ces événements, de nous donner une paix véritable et une joie véritable. Et ce n'est uniquement en passant par cette expérience de la justification, de la sanctification, eh bien, que nous pourrons devenir le pire cauchemar de Satan. Et c'est alors que nous pourrons prêcher avec puissance ce message des trois anges. Et il est important que nous puissions prendre conscience également de l'importance de la santé dans l'évangélisation. Quand nous voyons tant d'hommes et de femmes qui souffrent, nous avons un message tellement puissant, pas uniquement sur un plan spirituel, mais également dans le domaine de la santé, pour permettre eh bien, à ceux qui souffrent de maladies de retrouver la santé. Et aux États-Unis, je vous parlerai de cet après-midi de ce DVD, La santé dans l'assiette. Colin Campbell, je ne sais pas si vous connaissez Colin Campbell. Colin Campbell, c'est un scientifique américain qui est à l'origine de la plus grande étude épidémiologique au niveau mondial. Ça s'appelle The China Study. En français, ça a donné lieu à l'enquête Campbell ou le rapport Campbell. Et donc, nous voyons dans ce documentaire... eh bien, des gens qui sont à l'article de la mort, c'est-à-dire que avec des pathologies lourdes, et on leur dit, bah, écoutez, il vous reste 2-3 semaines d'espérance de vie, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à faire. Et nous voyons ce type de personnes, comme Bell et d'autres. Et aux États-Unis, on est à la pointe. Certains sont à la pointe. 15 ans ou 20 ans après, ces mêmes personnes, qui n'ont que 2-3 semaines d'espérance de vie, sont toujours là. Nous avons un message puissant au niveau de la santé, mais par contre, c'est vrai qu'il nous faut l'appliquer. Et également, pour ceux que ça intéresse, Vie Santé, ça c'est donc, je dirais, un projet mondial, santé et bien-être, et l'Union vient de faire l'acquisition de 1000 exemplaires, et pour en distribuer une bonne partie déjà à tous ceux qui sont affiliés à l'IEBC, c'est un bon moyen aussi pour montrer aux gens que l'Évangile libère dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et pour terminer, j'aimerais terminer par deux versets qui sont magnifiques. Le premier, c'est Romains chapitre 8, le verset 1. Romains qui nous rappelle, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et le deuxième texte,